Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Vincent. Guillaume, bonjour.
Salut Benoît.
Je te propose aujourd'hui, puisque dans les préparations de cet épisode, on a échangé sur quelque chose qu'on a fait, sur une contrainte qu'on a eue tous les deux à un moment donné dans un kata ou dans un exercice et que j'ai trouvé intéressant, qui était de coder sans TDD, c'est-à-dire de manière très explicite de s'interdire de coder en TDD. Moi, je l'ai fait dans le cadre de la formation que je suis en train d'écrire. Là, on est le 7 août, la première formation qui sera disponible dans la Maison des Compagnons. Je voulais vraiment justement partir d'un bout de code legacy, donc je me suis dit, essaye de voir, parce que dans la formation, je dis, finalement, si tu n'as pas besoin d'évolution, si ton truc va être figé, est-ce que tu as réellement besoin de te préoccuper du design? C'est pas sûr. Et puis, le deuxième point, c'est de dire, encore faut-il être capable de le construire. Et donc, je voulais voir quelle était la limite, je voulais tester quelle était la limite à partir de laquelle, sans de bonnes pratiques, ça devenait vraiment intrinsèquement difficile de faire ne serait-ce qu'un pas de plus, quoi. Toi, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience, justement, où tu t'étais mis comme cette contrainte de coder sans TDD?
Moi, c'était un peu la même idée. C'était souvent, on explique que mettre des tests, ça prend trop de temps. Et du coup, moi, ça fait à peu près 10 ans que je fais du développement piloté par les tests. Alors, je me suis dit, essayons sans. Et pour un pet, sur un pet project, une application que j'ai faite le week-end, j'ai essayé de partir sans test et de faire l'application. Bah comme ça et très vite.
Et alors du coup voilà, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Comment est-ce que tu as ressenti les choses?
Alors
il y avait de la gêne, est-ce que c'était
fluide? C'était très douloureux en fait. Étrangement, c'est très douloureux. Je me suis vite aperçu que je ne savais plus coder sans mettre de test. Et je me suis très aperçu très vite aussi que on faisait tout le temps des tests. Mais les tests étaient transformés. Je faisais plus de tests visuels. Je faisais des requêtes sur mon API, dans mon terminal ou dans mon navigateur pour m'assurer que les données étaient bien formatées. Je faisais une série de tests qui étaient des tests manuels. Donc en fait, on fait des tests. Hein. Tout le monde fait des tests. Personne ne code un truc sans le tester et puis l'envoie en production. C'est juste que les tests sont manuels, très souvent. Et donc, j'ai eu vraiment l'impression d'être au ralenti. Quand je corrigeais quelque chose d'un côté, ça cassait de l'autre. J'avais pas ma barre verte qui me donnait du feedback sur mon code. Et donc, au début, ça allait plus vite. Hein. Au début, très vite, on a des nouvelles fonctionnalités, on a des boutons qui marchent. Tout est rigolo. Mais... en fait, petit à petit, on va de moins en moins vite. Moi, je prenais pas de plaisir à coder. Cette notion que j'aime bien dans le test-driven development, c'est de voir, de faire des petits pas, d'avancer par petits pas, de prendre du plaisir avec des micro-victoires à chaque fois. Et là, je les avais plus. Et très vite, en fait, j'allais de moins en moins vite.
Quand tu dis très vite, si on essaye de quantifier ce très vite, c'est quoi? C'est une heure de travail, c'est 100 lignes de code, c'est quoi?
C'est au bout de 2 heures, 2-3 heures, déjà le code faisait des choses, mais j'étais pas confiant sur le code que je produisais, et puis j'étais pas à l'aise, et puis j'allais de moins en moins vite. En quelques heures, en fait, je me suis retrouvé à ne plus trop avancer. Aussi vite qu'au début, et j'allais moins vite que quand je code de manière normale avec les tests.
Alors moi, mon expérience, je réouvre le fichier là. Tu vois, le main, je me suis vraiment interdit de créer des classes et tout. Je me suis dit, essaye de voir juste un bon vieux main des familles, quoi. Donc je suis parti sur le greeting kata qui me plaisait bien. Je me suis dit, tiens, voilà, il y a assez de matière pour faire un peu des choses. En gros, ça fait 50 lignes, hein, un peu moins de 50 lignes le main, et je crois que là, moi, j'ai mis 3/4 d'heure à l'écrire à peu près. Et là, je crois que j'ai atteint ma limite, moi, en fait. C'est-à-dire que déjà, alors au début, ça passait vite, tu vois, lire un fichier, parser les lignes. Je dois reconnaître que j'ai pas ressenti de gêne dans les premiers temps. Le début, ça effectivement, je travaillais à la console, hein, à regarder à chaque run. Finalement, à chaque run, au lieu d'avoir une barre verte ou rouge avec une information précise de ce qui va pas et de la progression, c'était à moi de reconstruire cette info à partir d'un rapport de run. Et finalement, au bout de 3/4 d'heure, quand j'ai fini, ça commençait à devenir pénible. C'est-à-dire que je commençais à m'y perdre parce que je crois que c'était au 7e niveau d'indentation que j'ai commencé à mon cerveau, tu vois, il avait du mal à raccrocher les wagons. Et là, je me suis imaginé en train de dire, bon, ok, donc c'est un kata dans lequel il faut dire joyeux anniversaire à une liste de gens dont on a l'email. Là, je me suis dit, ok, maintenant, imagine que tu dois faire évoluer les exigences avec une règle métier du genre, si j'ai le numéro de téléphone, ben, j'envoie plutôt un SMS. Et si j'ai l'email, j'envoie plutôt un email. Et là, j'ai eu une espèce de blocage et je me suis dit, non, il n'y a pas moyen. C'est-à-dire que là, en fait, je crois qu'avec ces 50 lignes, j'ai atteint la limite de ce que, je sais pas, de ce que je trouvais sain, enfin, même pas sain, parce que à chaque fois, je me forçais, tu sais, à dire, non, non, là, mais là, c'est, là, tu préfères un extract méthode. Non, non, force-toi, inline tout. Mais là, c'est de la folie, ce que tu es en train de faire là. C'est pas grave. Inline tes variables, inline tout, vas-y, à fond. Et ouais, je crois que pour moi, la limite, c'est trois quarts, moins d'une heure de code et 50 lignes et aller plus loin avec cette contrainte, d'un coup, ça devenait... c'était juste que ça... C'est un non, quoi. Non. Le seul mot qui me venait en tête, c'était non. Ça faisait plus de sens, tu vois. C'était... Je touchais la limite pour moi de l'exercice.
Moi, j'ai pas fait de kata sur ça. J'avais juste fait une application, un peu de project, mais très vite, en fait, j'ai rajouté les tests. Moi, j'ai pas attendu... Au bout de 3 heures, je me suis dit, voilà, tu vas moins vite que quand tu mets des tests, donc arrête tes bêtises. Mettons des tests et...
Et avançons, quoi.
Et avançons, parce qu'en plus, c'était quelque chose que je savais que j'allais jeter, donc je me suis dit, bon, bah, si tu le jettes, pourquoi mettre des tests? Souvent, c'est quelque chose qu'on entend aussi.
Ouais, en fait, bien sûr. Ouais.
Et souvent, les choses qu'on veut jeter restent, mais j'allais moins vite au bout de 3 heures que quand je mettais des tests, donc... Voilà, c'est le temps.
Le ROI, moi je dis toujours que on me demande toujours cette question, c'est quoi le retour? C'est à partir de combien de temps que tu as du retour sur investissement avec du TDD? Et moi je dis dès la première heure. Ou dès la première journée, tu vois, parce que les gens en général s'attendent à avoir des durées en mois, quoi.
Oui.
Non, dès la première journée, pour moi, il y a du retour sur investissement et finalement, ce que tu dis et l'expérience que j'ai faite conforte complètement ce point de vue-là, quoi.
Alors après, c'est pour des développeurs qui font du TDD depuis quelques années. Parce que changer de paradigme et de faire sans TDD, en fait, ou de se mettre au TDD quand on n'en fait pas, c'est à mon avis aussi douloureux que d'abandonner le TDD. En fait, changer vraiment sa façon de faire, c'est quelque chose, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui est pas...
Complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Et c'est aussi tout le sens de ce que j'amène et de leur dire, il faut être conscient que ça coûte moins cher, mais à condition d'avoir la compétence et qu'il va falloir l'acquérir, cette compétence. Et que ça, par contre, effectivement, se l'approprier pendant qu'on développe, là, à ce moment-là, oui, on avance moins vite. Et comme quand on s'approprie n'importe quelle compétence, quoi. Mm. Ça vient, c'est pas gratuit, quoi, l'acquisition de ce savoir-faire.
Ça s'apprend.
Après, toi, je sais que tu es spécialiste du legacy, donc je me pose une question. Tu vois, j'ai ce morceau de code, j'aimerais le refactoriser, justement. Le but du jeu, c'était de créer un bout de code affreux pour pouvoir jouer à le refactoriser. Je me pose la question, est-ce que j'ai envie de le faire avec et sans TDD, avec cette croyance, mais que tu vas pouvoir, que je te demande de challenger, que finalement, si je ne fais que du refactoring avec notamment les outils intégrés d'IntelliJ, j'ai peu de chances de casser ce que je suis en train de faire. En fait, je me pose vraiment la question, est-ce que ça peut être une espèce de marche intermédiaire vers le TDD que de commencer par faire du refacto de base, hein, de l'extract méthode, de l'extract classe, tu vois, des petites choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses?
Si tu utilises un vrai IDE, oui. Si tu utilises un éditeur de texte où il n'y a pas de, d'extract méthode, ça devient difficile d'être confiant dans sa modification. Ou alors on va se mettre
plus
à faire plein
d'accord,
de tests.
Faut être plus joueur. D'accord, ok.
Mais du coup, oui, c'est... En fait, moi, je mets en place des tests souvent dans du code legacy parce que mon objectif, c'est de supprimer du code. Mon objectif est d'atteindre la perfection, et comme l'a dit Saint-Exupéry, elle est atteinte quand il n'y a plus rien à supprimer. Mais quand on modifie du code, quand on transforme ce code-là, quand on change les abstractions, quand on fait évoluer le code, bah, il faut qu'on ait du feedback sur est-ce qu'on a cassé quelque chose ou est-ce qu'on n'a rien cassé. Et moi, j'ai envie de rentrer le soir...
Le premier truc que tu fais, c'est que tu commences par mettre en place le filet de protection, quoi. Avec
exactement. Pour pouvoir rentrer chez moi le soir et me dire j'ai rien cassé, ou si j'ai cassé quelque chose, c'était voilà, j'ai mis en place tout ce qui était dans mes compétences pour me permettre de modifier mon code de manière sereine. Et c'est vachement important, parce que souvent les gens ne modifient pas le code pas parce que ils savent pas faire. Il y en a beaucoup qui savent les principes de base du clean code, ou qui aimeraient bien introduire un design pattern particulier dans leur code. Mais pourquoi toucher à du code qui fonctionne? On ne sait pas trop comment ça marche. Si la dernière fois qu'on a touché ce code-là, on a tout fait péter. Donc il y a une peur qui s'installe et on n'améliore plus en fait. On vient rajouter juste le petit if au milieu de 50 if pour rajouter cette condition. Parce que ça, c'est ce qui fera le moins de dégâts, et c'est là où moi j'introduis des tests, c'est que j'ai envie de pouvoir rentrer le soir et je transforme TDD. Je sais pas qui a dit ça, mais j'aime bien la citation. On transforme la peur en ennui. Ça devient presque ennuyeux de développer un TDD parce que ça marche en fait.
Bah écoute, je te remercie. Je te propose que ce soit le mot de la fin. Les auditeurs qui ont envie d'en savoir plus, ils peuvent venir où, Guillaume, sur ce que tu, pour voir un peu ce que tu fais et comment tu codes?
Sur mon GitHub, donc github.com, Guillaume Vincent.
Super, bah écoute, merci d'être venu aujourd'hui.
Merci à toi de m'avoir invité.
Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tout ça t'a donné envie de rejoindre la communauté des artisans développeurs. Je t'invite à nous rejoindre sur artisandeveloppeurs.fr et je te dis à demain.